Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 185e numéro de nos chemins d'histoire, le 26e de la 5e saison, et nous avons la joie d'accueillir à notre micro deux invités, Catherine Grandjean et Christophe Chandezon. Bonjour à vous.
Bonjour Luc Dérault, bonjour chers auditeurs.
Bonjour à toutes et à tous.
Catherine Grandjean, vous êtes professeure d'histoire grecque à l'université de Tours et vous dirigez le volume qui vient de paraître chez Belin dans la collection Mondes Anciens, un ouvrage publié sous le titre « La Grèce hellénistique et romaine d'Alexandre à Adrien, 336 avant notre ère, 138 de notre ère ». Christophe Chandezon, vous êtes professeur d'histoire ancienne à l'université Montpellier-Paul-Valéry et vous êtes l'un des co-auteurs de cet ouvrage en compagnie de Gerbert Sylvestre Bouissou et de Pierre-Olivier Auchard. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revisitons à l'aide d'une iconographie, d'une cartographie toujours aussi remarquable dans cette série, l'histoire du monde grec, hellénistique et romain. Alors revenons peut-être au départ de notre conversation, Catherine Grandjean, peut-être sur le projet. C'est un ouvrage qui appartient à une série, la série Mondes Anciens, la série dirigée par Joël Cornette, et c'est le dernier tome de la trilogie sur la Grèce. Il y avait un volume sur la naissance de la Grèce, un volume consacré à la Grèce classique, et voilà le volume final. Donc évidemment, j'imagine que votre projet est conçu en fonction de cette trilogie-là.
Tout à fait. L'idée était de faire ces trois volumes sur le monde grec. Alors le premier embrassait une durée extrêmement vaste, avec beaucoup de documentation archéologique. Le deuxième volume sur la Grèce classique, lui, était consacré vraiment à l'acmé, traditionnellement défini de l'histoire du monde grec, 5e siècle, 4e siècle. Et donc ce dernier volume termine, si l'on peut dire, l'histoire de la Grèce hellénistique et romaine en s'arrêtant au règne d'Adrien. Donc on a choisi un peu par commodité aussi parce que c'est une figure extrêmement connue des lecteurs, du grand public cultivé, et aussi parce que c'est l'empereur Philhellène par excellence, le plus peut-être pétri de culture grecque. C'est aussi le dernier empereur romain qui ait voyagé en fait dans la partie orientale de l'Empire pour autre chose que faire la guerre. Pour son plaisir, en fait, de grand Philhellène.
Alors, on reviendra sur l'arc chronologique que vous déployez, mais peut-être, une expression qui n'est pas forcément familière de tous nos auditeurs, l'usage de la Grèce, de l'expression Grèce hellénistique, finalement, quand on regarde l'historiographie. C'est relativement récent, enfin ça remonte au 19e siècle.
Absolument, c'est-à-dire que c'est un terme qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, donc vers 80 de notre ère, pour désigner ce grec sans doute un petit peu imparfait que possédaient des juifs, qu'on appelait des juifs hellénisés, qui connaissaient, qui pratiquaient le grec, et qui sans doute pour certains d'entre eux étaient aussi convertis à un certain nombre de traits du mode de vie grec. Et c'est donc au XIXe siècle que Johann Gustav Droysen a proposé en fait de définir cette période de l'histoire grecque en donnant ce nom donc à la période qui embrasse ce temps où finalement il y a une forte dilatation de l'espace dominé par les Grecs qui conquiert la suite d'Alexandre des espaces extrêmement vastes qui vont jusqu'à l'Afghanistan, au Pakistan, à l'Ouzbékistan, jusqu'à la frontière sud de l'Égypte. Évidemment, les monarques grecs après Alexandre se retrouvent à gouverner des pays qui ne sont pas des pays peuplés de Grecs, mais où les élites sont amenées, si elles veulent conserver leur statut, évidemment, à apprendre le grec.
Christophe Chandezon.
Pour comprendre combien l'invention de cette notion d'époque hellénistique a été un changement historiographique fondamental, on peut aussi comparer avec la façon de voir l'histoire de la Grèce un siècle avant Droysen, au XVIIIe siècle. Et quand vous prenez par exemple l'histoire ancienne de Rollin qui écrivait au temps de la Régence, c'est très clair, après Alexandre, ça n'est plus que décadence. Et la seule chose qui est intéressante, c'est de comprendre la montée en puissance de Rome. Et si vous prenez aussi, par exemple, l'autre grand ouvrage qui, à la veille de la Révolution, fait un peu le bilan de l'histoire de la Grèce, c'est-à-dire le voyage d'Anacharsis de l'abbé Barthélemy, il est évident pour lui qu'il s'arrête à Alexandre, qu'ensuite, les choses ne sont pas intéressantes. Donc, Droysen, voilà, met pour la première fois l'accent sur cette époque.
Catherine Grandjean. C'est lié, évidemment, à tout un phénomène. C'est un Prussien, Droysen, hein, qui est très influencé par la philosophie de Hegel. C'est quelqu'un qui pense à l'unification allemande aussi et qui voit dans Alexandre une figure un petit peu emblématique, hein, d'exemplaire, qui pourrait inspiré donc des gouvernants allemands. Et puis, il y a aussi les progrès de l'archéologie qui commencent à poindre et qui font qu'on se départit de plus en plus du regard posé sur cette période par les sources textuelles et par les historiens dont parlait Christophe, on pourra en évoquer évidemment d'autres, qui étaient très influencés par le regard des Romains, notamment du cercle d'Auguste sur cette période. Il y a un texte terrible de Suétone, hein, dans la vie d'Auguste, où il est dit que Auguste va sur la tombe d'Alexandre à Alexandrie, le modèle du conquérant, et que quand on lui propose de voir les sépultures des Ptolémées, il le refuse parce que, à ses yeux, après la mort d'Alexandre, ça n'est que décadence, ça n'est que désordre, et finalement, la conquête romaine, enfin, en tout cas, c'est l'idée que le cercle d'Auguste tient à faire accroire, disons, à l'ensemble des membres des habitants de l'Empire, finalement, il y a une remise en ordre qui est liée, disons, aux actes divers posés par Octave Auguste, au principe augustien. Et on voit que les historiens, pendant très longtemps, ont eu ce regard très négatif, finalement, sur cette période postérieure à Alexandre.
Alors, évidemment, Christophe Chandezon, le titre de l'ouvrage, c'est « La Grèce hellénistique et romaine ». Alors, la question qu'on se pose tout de suite, mais quand donc commence la Grèce romaine ? Et là, ce qui compte, c'est aussi le point de vue de celui qui parle. Il y a le discours des archéologues, le discours des historiens, c'est pas tout à fait le même.
Alors, je vais parler avec des siècles tels qu'on est habitué à les utiliser, 3e siècle, 2e siècle, mais il faut jamais perdre de vue le fait que cette notion de siècle, évidemment, à l'époque, est totalement incompréhensible et ne fait aucun sens. Si on observe comment Rome progressivement se mêle des affaires grecques, on s'aperçoit que cela commence véritablement à la fin du 3e siècle avant notre ère. L'objectif de conquête, dans un premier temps, n'est pas là. Les interventions romaines et justement la mise en place d'un pouvoir romain dans la partie orientale de la Méditerranée se fait progressivement. Ça dure pendant tout le 2e siècle jusqu'à 30 avant notre ère et la prise de contrôle de l'Égypte, l'Agide, cette prise de contrôle finale. Alors vous voyez que la notion de Grèce romaine peut d'une certaine manière poser problème. Parce que si on veut une rupture claire, mais finalement on a renoncé à cette rupture claire, il faudrait parler d'époque impériale, c'est-à-dire là c'est clair, ça commence entre 30 et 27 avant notre ère, et là on a une date qui tranche les choses de manière absolument nette. Alors vous voyez, parler des restes romaines, voir progressivement comment Rome se mêle de tout cela, c'est une manière d'aborder la question. Mais on peut aussi dire d'une certaine façon que cette mise en place du pouvoir romain fait partie de l'époque hellénistique. Donc, il y a un flou de cette périodisation, mais qui est un flou qui permet aussi de réfléchir. Vouloir absolument le dissiper peut être quelque chose qui nous fait perdre de vue une compréhension des événements.
Ça veut dire qu'en fait, poser la question de la césure, c'est pas forcément une bonne question, Catherine Grandjean.
Absolument. Pendant longtemps, on a considéré, à la suite de Polybe, que la première intervention de Rome dans la guerre d'Illyrie constituait, donc vers 230-229, constituait véritablement un tournant. Et on revient beaucoup là-dessus. On travaille aussi beaucoup sur les questions de transformation des institutions civiques. Ça, c'est les magnifiques travaux de l'école d'épigraphie, notamment française, hein, qui montrent à quel point il y a des distinguos à faire dans l'évolution, peut-être sur un modèle souvent qui emprunte emprunte un certain nombre de traits aux institutions romaines ou aux conceptions romaines d'institutions civiques, mais en réalité, les choses se font au gré d'évolutions internes aussi aux sociétés grecques, beaucoup plus que peut-être sous l'influence des Romains. D'où le fait que les quatre auteurs de cet ouvrage sont des spécialistes d'histoire grecque. Parce que pour nous, contrairement à ce que pendant longtemps l'historiographie a voulu faire accroire, la cité n'est pas morte à Chéronée, hein, en 338, au moment de la grande défaite de Thèbes et d'Athènes face à Philippe II. Il y a une continuité, un continuum de l'histoire grecque, et notamment de la cité grecque, quels que soient les brodequins sénatoriaux au-dessus de leur tête, hein, que ce soit ceux des grands rois qui succèdent à Alexandre ou des Romains ensuite.
Donc ça veut dire aussi, Christophe Chandezon, que finalement la date qu'on a en tête quand on est un petit peu béotien, un axiome, 31 avant Jésus-Christ, faut relativiser son importance ou non ? C'est quand même une date phare. Hein.
Alors, son importance n'a pas besoin d'être relativisée. C'est réellement un événement majeur dans les conséquences que cela entraîne. Mais oui, je reprendrai le mot qu'a employé à l'instant Catherine Grandjean. Créer des ruptures, c'est pratique. On a besoin de fonder des catégories, de séparer les choses. C'est normal, ça fait partie des modes de raisonnement. Mais les continuums aussi. Il faut les penser. Donc, vouloir s'accrocher à des ruptures absolues, on pourrait dire la même chose de la rupture finale d'Adrien, c'est s'empêcher de penser le cours de l'histoire.
Concernant cette rupture faite avec Adrien, en réalité, le livre continue jusqu'à l'époque des Sévères, hein, en tout cas pour l'histoire politique. Mais disons qu'il fallait trouver une figure un peu exemplaire, et on l'a choisi.
Le livre se termine avec Adrien se prolongeant pointillé un petit peu au-delà. Il commence avec Alexandre. Ça a suscité des débats entre vous ? Pas spécialement ?
Pas spécialement. Enfin, disons que vous avez, si vous regardez par exemple le livre de François Chamoux sur la civilisation hellénistique, hein, avec lequel notre livre n'est pas sans parenté, hein, qu'il s'agisse de l'iconographie, enfin des cartes, etc., il commence aussi, il intègre Alexandre. En revanche, vous avez beaucoup de livres plus récents qui commencent en 323, parce que c'est la périodisation traditionnelle de l'époque hellénistique. Mais d'un point de vue historiographique, il nous a semblé que c'était très intéressant d'inclure Alexandre. Parce que finalement, Alexandre, au moment de la conquête, qu'il s'agisse de l'administration des territoires, qu'il s'agisse des rencontres avec des cultures différentes, finalement, les problématiques qu'il a dû affronter, bon, il n'a pas eu beaucoup de temps, évidemment, pour les trouver des solutions, mais c'est finalement celles que ses successeurs ont dû affronter également. Et donc, il y a une espèce de continuité incontestable entre, à notre avis, hein, ces choses-là. Et puis, le fait d'intégrer Alexandre permettait de reprendre toute cette problématique, finalement, qui a énormément évolué, des conséquences de la conquête d'Alexandre, à mesure que la décolonisation, disons, a évolué, le regard sur les relations entre Alexandre, ses successeurs, et puis ses territoires qui étaient conquis, ont beaucoup évolué. On est passé de cette fusion dont parlait Droysen, ou de cette espèce de conception fondée sur l'idée d'une supériorité d'une culture grecque sur des cultures locales, en Égypte, au Proche-Orient, voire même en Asie centrale, à une problématique nouvelle qui est celle des transferts culturels. Et ça, on le pense beaucoup mieux si on voit les choses, c'est toujours ce que disait Christophe Chandezon, dans une forme de continuité.
De toute façon, Alexandre a deux visages, il est bifrance. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien le percevoir comme le dernier, j'emploie une expression très datée, comme le dernier des grands hommes de l'époque classique ou comme le premier des grands souverains de l'époque hellénistique. Catherine disait comme le dernier des Achéménides. Parfaitement, effectivement, ça c'est aussi le regard qu'on fait en décentrant la perspective sur la partie encore plus orientale de ce monde, c'est-à-dire en ne se concentrant pas sur la Méditerranée de l'Est seulement. Donc il a ce double visage et c'est pour ça qu'il est difficile à classer et il est aussi intéressant à penser d'une certaine manière. Mais là encore, quand historiographiquement on prend un des grands ouvrages sur l'époque hellénistique, qui est celui d'Edouard Ville, voyez, d'Hoarville, choisit de commencer à la mort d'Alexandre. Mais si vous faites l'histoire d'Athènes classique, vous ne pouvez pas vous arrêter en 323. Vous allez nécessairement jusqu'à l'été 322 et l'échec de la dernière tentative d'Athènes pour garder sa place en tant que grande puissance méditerranéenne.
Alors, la couverture, la première de couverture, alors c'est toujours important, une première de couverture, elle dit aussi un petit peu le projet, et y figure un détail de la bataille d'Alexandre et Darius, mosaïque de Pompéi, probablement produite en Égypte à la fin du IIe siècle avant notre ère, importée à Pompéi, citée en Sevelie, on le sait bien, en 79, et mosaïque redécouverte ou découverte en 1831 dans la Maison du Faune. Mais il y a aussi, peut-être, je vous donne la parole, Christophe Chandezon, sur cette première de couverture, il y a un détail de la mosaïque du Nil de Palestrina du 1er siècle avant Jésus-Christ qui est absolument magnifique.
Elle est absolument magnifique, mais aussi il faut bien garder présent à l'esprit que la mosaïque que nous voyons est largement une mosaïque du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'après sa découverte, elle a beaucoup impressionné au moment de sa découverte. Elle a fait l'objet d'une réorganisation des scènes qui parle en fait de deux époques en même temps, c'est-à-dire l'époque de sa création et de l'époque de sa redécouverte, d'une certaine manière. Il y a aussi un regard dans cette mosaïque sur la façon de voir le monde, puisqu'on a l'impression de suivre le cours du Nil depuis l'Afrique du centre-est jusqu'aux rives de la Méditerranée. Donc on a ça, une sorte de carte qui nous est représentée de ce pays. Et puis, il y a aussi ce regard fasciné des Grecs et des Romains sur tout. Allez, là encore, permettez-moi d'employer un mot connoté, maladroit, sur tout un monde exotique d'une certaine manière. Un monde exotique qui est fait de mœurs humaines spécifiques et qui est fait aussi d'espèces animales qui fascinent les Grecs et qui fascinent les Romains, mais depuis très longtemps.
Catherine Grandjean.
Je voulais juste ajouter, il y a des combattants aussi sur cette mosaïque, et on a très peu de représentations finalement de ces soldats, à cause des disparitions de peintures d'époque hellénistique, et on a une représentation aussi de combattants macédoniens sur cette image. En revanche, on ne voit pas ces mercenaires galates, cousins des Gaulois, qui figuraient dans toutes les armées du monde hellénistique et qui étaient redoutés pour leur bravoure au combat.
Alors, disons peut-être un mot aussi du travail que vous avez mené, travail collectif. 4 auteurs, 13 chapitres. Et vous, Catherine Grandjean et Christophe Chandezon, vous avez pris en charge les chapitres 9 et 10 qui portent sur l'économie urbaine et l'histoire des campagnes. Un plan facile à trouver ?
Alors, le plan, oui, il n'a pas été très compliqué, en fait, à trouver. Les chapitres d'événementiel précèdent, en fait, un chapitre sur les monarchies. Il y a 3 chapitres vraiment complètement d'événementiel. Le premier consacré à Alexandre, le second au Diadoque. C'est une période extrêmement compliquée. Ensuite, un chapitre qui amène, disons, l'histoire de la période jusque la fin du IIIe siècle, parce que c'est à partir de ce moment-là que véritablement les Romains interviennent, à partir du début du IIe siècle, là ils sont vraiment omniprésents. Ce chapitre sur la royauté, le 4, un autre sur les cités, et puis l'hellénisme. Donc on a coupé en fait cette partie événementielle pour respirer un peu, et puis ensuite 2 autres chapitres sur la conquête, en fait, dans ses débuts, et puis ensuite l'intégration progressive au monde romain, et donc nous avons nos 2 chapitres d'économie en fait et d'histoire un peu sociale et puis ensuite donc l'époque impériale, pour reprendre les propos de Christophe, jusqu'à l'époque antonine en fait, et même un petit peu au-delà, jusqu'au règne des Sévères. Les grandes villes un peu, alors certaines sont évoquées déjà dans le chapitre 5 comme Alexandrie, mais on voit l'évolution donc de ces villes à l'époque impériale au fil du temps. Et puis ensuite un très gros chapitre d'histoire culturelle sur les mutations de l'hellénisme à l'époque impériale.
Alors ce qui est intéressant, Christophe Chandezon, c'est que évidemment le chapitre que vous avez pris en charge et dont on reparlera plus en détail tout à l'heure porte sur l'histoire des campagnes. Il faut toujours se dire que évidemment, c'est la majorité de la population y habitait à l'époque. On en a évidemment perdu l'idée, mais c'était important de consacrer un chapitre un peu central dans l'ouvrage à cette dynamique de l'histoire des campagnes.
Tout à fait, et un chapitre, vous voyez, qui s'étend sur 5 siècles. C'est le titre qui le rappelle d'une certaine manière. Pour revenir peut-être un peu au plan, mais ensuite je répondrai évidemment à votre question, je dirais un des enjeux aussi, c'était d'avoir des chapitres qui étaient chronologiquement plus thématisés et d'autres chapitres qui unissaient ensemble époque hellénistique et impériale. Et d'une certaine manière, Catherine et moi, pour nos 2 chapitres, nous avons tenu justement à écrire des textes qui sont des ponts qui vont d'Alexandre jusqu'à Hadrien. Et en faisant ça, on a aussi tenu d'une certaine manière à briser cette habitude académique de séparer l'histoire grecque de l'histoire romaine. C'est une chose dont on souffre de façon régulière. Vous le voyez dans les universités, la séparation entre histoire grecque et histoire romaine. Et vous voyez par exemple que pour les programmes d'agrégation, il faut que ce soit soit l'un, soit l'autre. C'est très difficile de faire sauter cet élément-là. Donc voilà, je voulais répondre, expliquer un peu en quelque sorte comment ces 2 chapitres intervenaient dans l'architecture générale de l'ouvrage. Après, pour les campagnes, effectivement, le premier volume, et en particulier les développements qu'avait consacré à ces questions-là Julien Zurbach, mais aussi Cécilia Dercollet, avait donné une place à cette question du monde rural, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, évidemment, à l'époque mycénienne, à l'époque archaïque, face à ces problèmes d'accès aussi bien à la terre qu'à la main-d'œuvre. Pour l'époque classique, on l'avait peut-être un peu plus oublié. Il ne fallait pas continuer à mettre cela autant en parenthèse dans le dernier volume qu'on allait consacrer à cette question. N'oublions pas que tous les Grecs n'étaient pas des philosophes, tous les Grecs ne passaient pas leur vie sur les sièges des théâtres, tous les Grecs n'avaient pas pour unique objectif dans la vie de devenir stratège ou archonte ou ce que vous voulez. Mais la plupart d'entre eux, c'était d'abord, et même pour les notables, de faire rentrer de l'argent, ce qui justifiait leur place sociale. Et pour ceux qui n'étaient pas des notables, l'immense majorité, évidemment, c'était de se nourrir quotidiennement et d'assurer cette survie dans le cadre de cette vie qui était une vie courte, hein, en réalité, on le sait bien, à l'époque. Donc voilà, ne les oublions pas, ces personnages-là. Et si vous permettez encore que je dise un mot, depuis longtemps, ils m'intéressent, hein, en vérité. C'est un peu mon domaine de recherche de départ. Mais j'ai observé aussi les événements qui se sont produits en France, vous voyez, une manifestation d'agriculteurs, on en pensera ce qu'on en voudra, sur leur origine, sur ceux qui les ont pris en main. Mais vous voyez que régulièrement, même aujourd'hui, l'actualité nous rappelle que cette question du monde rural est une question que nous, citadins, nous ne pouvons pas mettre complètement de côté. Et si nous le faisons, nous ne comprenons pas le monde peut-être tel qu'il est, mais en tout cas tel qu'il était, assurément, nous ne le comprendrions pas.
Alors, terminons peut-être la première partie de notre émission en rendant hommage quand même à toute l'équipe éditoriale de Belin. Il faut le dire parce que c'est un bel objet que ce livre. Il y a des cartes magnifiques signées comme très souvent par Aurélie Boissière. Il y a évidemment une iconographie splendide, il y a des ateliers, des annexes, il y a même des index, ce qui n'est pas si fréquent. Dites-nous comment se sont construites les choses, peut-être Catherine Grandjean, pour le choix des images par exemple. C'est en dialogue avec l'éditeur, avec les auteurs, enfin comment est-ce que vous avez
procédé ?
C'est-à-dire
qu'il y a normalement, il y a un nombre d'illustrations qui est prédéterminé pour chaque ouvrage de la collection, un nombre de cartes, et donc ce sont les auteurs par chapitre qui font des propositions à l'éditeur. Et donc, en fonction de ce qui est possible, les illustrations sont faites ou pas faites. Par exemple, on a des problèmes de droit souvent avec certains musées, je pense, ou des sites archéologiques en Grèce, en Turquie. Ça peut être une question de délai particulièrement long. Et puis, parfois, on est un petit peu gourmand parce qu'il y a des illustrations qui sont particulièrement onéreuses. On est tous très heureux de participer à ces merveilleux livres, parce que c'est vrai que ça permet de donner à voir ce qui nous passionne, hein, et de mieux faire prendre la mesure en fait de l'intérêt de ces études et de s'intéresser donc à l'histoire grecque et notamment à l'histoire de cette période.
Christophe Chandezon, c'est aussi une part de votre métier en tant que professeur des universités de communiquer à un large public les résultats de la recherche et ce livre permet de le faire notamment.
Tout à fait, oui. Je suis complètement d'accord avec cette position-là sur le fait que cette diffusion des connaissances, une diffusion exigeante, hein, évidemment,
exigeante, oui, oui.
Cette diffusion-là est quelque chose d'essentiel. Régulièrement, quand on voit comment se produit l'évaluation des carrières des enseignants-chercheurs à l'heure actuelle, il y a beaucoup de critères qui sont pris en ligne de compte. La qualité des publications scientifiques, purement académiques, qui peuvent être des publications austères, on le sait bien. L'investissement dans le domaine de l'enseignement, c'est tout à fait normal. L'investissement dans l'administration des universités. Mais regardez, dans les dossiers qu'on a à rendre, la question de la diffusion auprès du grand public, elle n'est jamais prise en compte. Et pourtant, elle est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle entretient la curiosité de ce public vis-à-vis de nos disciplines, qu'elles justifient leur existence. Donc, oui, ce genre de livre, là encore, fait ce lien entre un savoir, des connaissances qui progressent, et puis des lecteurs qui ont envie de se tenir au courant de ce qu'on a compris récemment, qui ont besoin de synthèse. Mais voilà, c'est cette association, je dis, exigence, et en même temps, simplicité dans l'écriture, absence de jargon, qu'on a essayé de tenir comme ligne de conduite.
Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Catherine Grandjean et Christophe Chandezon, co-auteurs d'un ouvrage paru chez Belin et intitulé « La Grèce hellénistique et romaine, d'Alexandre à Adrien, 336 avant notre ère, 138 de notre ère ». Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on peut revenir sur quelques points saillants de votre travail. Évidemment, on ne dira pas tout. Le volume est fort de plus de 800 pages, ce qui est considérable. Sur l'aspect politique, il faut peut-être revenir, on a dit déjà beaucoup de choses, mais sur le travail que vous menez notamment dans l'atelier de l'historien. Alors, dans l'atelier de l'historien, Catherine Grandjean, il y a plein de choses. Il y a un atelier sur les héritages, rédigé notamment par Gerbert Sylvestre Bouissou. Vous avez vous-même travaillé sur la géographie alexandrine, mais il y a des choses sur Alexandre, sur les fêtes royales, les inspirations impériales, la question des animaux, la question des paysages, la question des monnaies aussi, qui est une de vos spécialités, Catherine Grandjean. Alors, je disais, sur l'aspect politique, la question du fédéralisme, alors là, est passionnante. Tout à l'heure, vous l'avez répété, vous avez dit la cité grecque, le modèle traditionnel de la cité grecque, même si à un niveau supérieur, ce sont la monarchie et ses fastes qui s'imposent, mais le modèle traditionnel de la cité grecque rencontre un succès remarquable. Mais il y a ce cas un petit peu particulier des koïna grecs. L'historiographie est en marche là, dans cet atelier, c'est d'ailleurs souvent la visée de ces ateliers, hein, c'est de montrer l'histoire en marche, si j'ose dire.
Alors le phénomène de ce qu'on appelle les koina, bon, le koinon en grec, c'est quelque chose qui désigne tout ce qui est commun, hein, mais c'est un mot qui désigne, au pluriel donc koina, des regroupements en fait de cités ou d'autres, disons, systèmes d'organisation politique, les ethnées. Depuis une très haute époque, hein, depuis l'époque archaïque, c'est presque concomitant avec l'apparition de la cité, peut-être un peu plus tardif, et ces koina connaissent un grand développement à l'époque hellénistique, sans doute pour permettre aux cités de mieux faire le poids, si je puis dire, face aux monarques, notamment dans le domaine antigonide, hein, c'est-à-dire les successeurs de Philippe II et d'Alexandre qui gouvernent pour l'essentiel la Macédoine et puis qui dominent largement également les cités de Grèce continentale, il y a deux États, deux koina qui ont joué les premiers rôles. Un qui a unifié l'ensemble du Péloponnèse, le koinon achéen, dont le citoyen le plus éminent, le plus célèbre est l'historien Polybe, qui parle avec passion de cet état. Lui-même était originaire de la cité de Mégalépolis. Et puis le koinon étolien, qui est un état de Grèce de l'Ouest. Et donc ces états fédéraux, enfin futurs états fédéraux, j'ai tendance à aller un peu vite en besogne, mais je suis pas la seule, hein, considérer que ce sont des états fédéraux. Montesquieu en parle déjà. C'est surtout à partir du XVIIIe siècle, au moment de la réflexion véritablement de la naissance de la science politique moderne, qu'on a beaucoup parlé de ces koina à la suite de, au moment là aussi de la redécouverte de Polybe. Montesquieu, les législateurs aussi américains, les constitutionnalistes américain au moment de la Constitution américaine, et des recherches multiples à partir des inscriptions, des textes évidemment de Polybe et des monnaies ont lieu, alors particulièrement aux États-Unis, en Allemagne, mais aussi en France. J'ai dirigé il y a peu un projet franco-allemand à partir des monnaies frappées par ces États fédéraux achéens et étoliens pour essayer de mieux comprendre en fait le fonctionnement interne de ces koina. Et on s'est aperçu que c'était véritablement, qu'ils avaient des traits véritablement fédéraux, c'est-à-dire qu'il y a des institutions communes, bien sûr, délibérative, une armée commune qui est mobilisée en cas de nécessité, des milices locales et puis une monnaie qui est frappée localement par des cités. Et chaque cité est extrêmement autonome, a sa propre législation dans beaucoup de domaines. C'est extrêmement souple, extrêmement résilient, extrêmement bien pensé. Voilà, à l'image de la cité grecque, hein, avec cette capacité admirable qu'on peut lui envier dans nos démocraties modernes de fonctionner, de s'adapter à toutes les évolutions du monde.
Si on regarde un peu ces nouveaux champs historiques, hein, c'est l'objet de l'atelier 2, on voit, Christophe Chandezon, que l'histoire des paysages, l'histoire de l'environnement, l'histoire des animaux, voilà, c'est quelque chose qui se... Ce sont des champs qui se développent aussi. Vous avez voulu mettre tout ça en valeur dans cet atelier, l'historien.
Le mettre en valeur tout en devant faire des choix, malheureusement, parce que nécessairement, c'est des choses qu'on ne peut exposer de façon claire que si soi-même on laboure ces champs-là. C'est-à-dire que quand on regarde cette conquête par l'historiographie actuelle de nouveaux champs historiques, nouveaux objets d'histoire, on s'aperçoit, oui, que c'est extrêmement foisonnant, hein, vous voyez, l'histoire du sensible qui se développe depuis quelque temps, qui touche l'histoire de l'Antiquité, l'histoire du corps, toutes ces studies, même si une partie de nos collections comptent, subaltern studies, gender studies, etc. Tout ça, ça mérite d'apparaître dans ce livre, parce que c'est un facteur de nouveauté potentielle dans nos perceptions, de renouvellement. Et oui, j'ai choisi aussi les animaux parce que... si on regarde en fait l'apparition de ce domaine-là, on peut que penser au livre de Delors, moi qui m'avait marqué quand j'étais étudiant, « Les animaux ont une histoire ». Et on voit aussi depuis quelque temps que ce sont des questions qui prennent de plus en plus d'importance dans l'historiographie, qui accompagnent des mouvements de société. Hein. Ça n'est pas par hasard que ce domaine-là de l'historiographie se développe en même temps que l'animalisme, d'une certaine manière, hein. En même temps, chronologiquement. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un lien idéologique entre ces deux éléments. Et finalement, parler des animaux, ça nous amène même à poser une question fondamentale. Vous vous souvenez de cette vieille définition de l'histoire? Il me semble que c'était Marc Bloch, l'histoire comme une science des hommes dans le temps. Eh bien, même cela, finalement, vous voyez, ces champs, cette définition-là, elle est remise en question par ces nouveaux champs. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas intégrer les autres formes de vivant? On aurait pu faire, évidemment, une place sur les plantes dans l'histoire et l'histoire des plantes. Et il y a en ce moment à Paris Kyle Harper qui donne des cours au Collège de France et qui montre aussi l'importance pour les antiquisants aussi qu'ont ces questions d'histoire de l'environnement.
Puis toutes les questions de l'agentivité, enfin l'agency, l'agentivité des non-humains, enfin tout ça, on est au cœur des dynamiques historiographiques actuelles, c'est tout à fait passionnant. Alors, si vous voulez bien, Catherine Grandjean, on va regarder un petit peu votre chapitre. Alors, vous êtes intéressée aux questions économiques, à l'économie urbaine. Vous rappelez dans votre chapitre les controverses historiographiques autour des productions et échanges à l'époque hellénistique. Vous mentionnez les travaux de Michel Rostovtsev et puis les travaux de Moses Finlay et leur remise en cause. L'idée d'un grand marché unifié englobant l'espace conquis par Alexandre ne tient pas très bien la route.
Cette idée-là, ou l'idée d'une stagnation, disons d'une absence d'évolution significative, d'absence de progrès technique, d'absence également d'échanges au long cours, l'absence d'évolution significative, bon, c'était l'idée de Finlay, que les permanence l'emportait sur les évolutions. Christophe Chanzon et moi avons beaucoup participé aux travaux très importants d'histoire économique du monde antique qui ont été menés à maintes reprises dans le cadre des entretiens de Saint-Bertrand de Comminges, les entretiens d'histoire économique. Dans les années 90, début des années 2000, il y a l'école de Liverpool aussi qui a beaucoup travaillé là-dessus autour de John Davis. Les archéologues aussi qui ont montré qu'il y avait une évolution des productions, une standardisation de beaucoup de productions artisanales. Mais l'idée, en effet, de Rostovtsev, de Droysen aussi, qui voyait Alexandre créer un monnayage extrêmement important pour irriguer l'Asie. Tout cela, bon, maintenant, les travaux notamment des spécialistes de la navigation, les fouilles d'archéologie sous-marine, les travaux également sur l'identification des productions, notamment des amphores de transport, par lesquelles s'ouvre il y a une représentation qui ouvre le chapitre sur l'économie urbaine, montre que à cette notion de grand marché unifié, englobant l'espace impérial conquis par Alexandre, il vaut mieux évidemment préférer l'idée de marchés régionaux et à une navigation hauturière, vraiment au long cours de Gibraltar jusqu'à la Syrie, préférer l'idée plutôt de cabotage et de zones peut-être pas uniquement micro-régionales, mais d'échanges au sein de régions qui peuvent être vastes et qui sont complémentaires.
Page 467. Nous avons le Kyrénia, nous pouvons admirer le Kyrénia 2, réplique du Kyrénia, construit par l'Hellenic Institute for the Protection of Nautical Tradition et l'American Institute of Naval Archaeology. Un navire construit vers 325, on a un reproduit, enfin c'est intéressant, on se met un petit peu dans l'atmosphère, si j'ose dire.
Oui, tout à fait. Alors le développement, on parlait de l'importance des découvertes archéologiques pour repenser cette période, comme toutes les périodes d'ailleurs. Il y a véritablement des découvertes d'épaves qui ont été réalisées. Alors, le plateau continental n'est pas très très important le long des côtes méditerranéennes, mais on commence quand même à avoir pas mal d'épaves qu'on peut ressortir et sur lesquelles on peut travailler. Et on voit qu'en effet, alors il y a une augmentation des tonnages et de la taille de beaucoup de navires. Il y a une inscription de Thasos, un règlement du port de Thasos, je crois que c'est du milieu du IIIe siècle, il me semble, qui montre qu'il y avait des loges en fait, qui permettaient d'accueillir des bateaux de tailles différentes, dont certains étaient extrêmement importants. Bon, il y a eu des navires gigantesques à l'époque hellénistique, mais c'est lié aussi à une volonté de certains souverains de montrer leur puissance. Mais disons que les bateaux les plus traditionnels, que ce soit sur le Nil ou que ce soit en Méditerranée, c'est des bateaux finalement qui ne sont pas très grands. Celui-là faisait 18 mètres de long et avec un équipage qui est assez réduit. Alors dans la fouille de l'épave d'Anticythère, dont il est question aussi dans le chapitre, on a même vu, parce qu'il y a eu des analyses ostéologiques qui ont été réalisées, qu'un des marins était une femme.
Alors vous le disiez, Catherine Grandjean, tout à l'heure, et on le voit aussi dans votre chapitre finalement, Christophe Chandezon, le commerce se pratique surtout à une échelle régionale. Là, je pense à la carte des exportations de grains de sirène, on est dans les années 320, dans une période de disette, hein, c'est ça.
En tout cas, il y a une crise frumentaire très nette qui touche une grande partie du monde grec à cette époque, dont les causes sont d'ailleurs difficiles à analyser. Échelle régionale, c'est quand même une région assez vaste, hein, c'est-à-dire qu'on a toute la mer Égée pratiquement et une partie de la mer Ionienne qui est impliquée dans cette affaire-là. La carte, elle est aussi intéressante. Elle a été beaucoup lue comme ça parce que elle permet les montants, les quantités de céréales exportées par Cyrène, cette cité qui se trouve dans la partie est de l'actuelle Libye. Les céréales exportées par Cyrène à direction du monde grec l'ont été en proportion des populations des différentes cités et des différentes régions. La carte est aussi une photographie démographique du poids des différentes régions du monde grec à cette époque. Échelle régionale, mais en fait, quel type de commerce, quel type d'échelle ? Tout à l'heure, on parlait du commerce maritime, du rôle des bateaux. Mais quand on étudie justement le monde rural, on s'aperçoit que les échanges se font par terre de manière beaucoup plus importante que ce qu'on avait pendant longtemps dit, enseigné à nos étudiants. Il y a une circulation des marchandises sur terre dans des régions qui sont des régions purement continentales. Alors évidemment, ces marchandises ne vont pas circuler à des distances aussi importantes que potentiellement la mer permettrait de les faire circuler. Mais vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'on a une sorte d'articulation des échanges avec des échelles qui s'imbriquent les unes dans les autres, mais qui n'opposent pas en fait un monde maritime qui serait un monde du mouvement et un monde continental qui serait un monde de la stabilité où rien ne se passe et où rien ne bouge.
Oui, alors ce qui est passionnant aussi, c'est de regarder un petit peu le rôle de certains centres hein, dans ce réseau. Rhodes, Alexandrie, Catherine Grandjean jouent un rôle majeur. C'est moins clair pour Délos, vous le dites.
Oui.
C'est débattu.
Alors,
en fait,
on passe au IVe siècle. Bon, le Pirée, le port d'Athènes, était vraiment le principal port de redistribution hein, en Méditerranée orientale. Et avec la conquête et la création de ces grands royaumes, bon, qui ont une façade méditerranéenne, mais enfin qui sont évidemment le centre de gravité du monde hellénistique, c'est quand même du monde grec, c'est quand même déplacé vers l'est avec la conquête. Quête d'Alexandre, il y a un glissement vers l'est, finalement, des zones les plus dynamiques hein, sur le plan, disons, démographique et puis aussi économique, en tout cas pour ce qui concerne l'échange. Et c'est lié aussi à des facilités de navigation, c'est lié à des positions stratégiques. Et donc, on voit Rhodes, l'île de Rhodes, qui jouait à l'époque classique un rôle évidemment notable, hein, mais surtout à partir du moment où les trois cités de l'île se sont unies à la fin du Ve siècle pour n'en former qu'une, au nord de l'île, sur un site tout à fait admirable pour la navigation. Donc Rhodes en face, littéralement, de la côte anatolienne, au sud de l'Asie mineure. Rhodes a joué un rôle extrêmement important à l'époque hellénistique, aussi sur le plan politique, hein, puisque c'est une des seules cités à être restée complètement indépendante des grands monarques, puisqu'ils avaient réussi à expulser leur garnison au moment de la mort d'Alexandre, leur garnison macédonienne, en 323, et qu'ils ont réussi ensuite à repousser le siège extraordinaire qu'avait posé devant la cité Démétrios Polyurcète, un des diadoques, un des successeurs d'Alexandre. Et donc, c'est à la fois, en fait, Rhodes, un port de redistribution, d'importation, réexportation. Ils ont des productions, bon, ça, un vin qui n'était pas terrible, apparemment, des céréales, beaucoup de productions qui viennent de la Crimée actuelle, hein, du nord véritablement de la mer Noire, où il y a des cités grecques, il ne faut pas l'oublier. Hein. On en parle beaucoup en ce moment de ces racines hein, des villes du sud de l'Ukraine, ces racines grecques, comme dans les villes du delta du Danube. Les productions de la côte de l'Asie mineure transitent par Rhodes et également des productions syriennes, des productions égyptiennes. Et c'est aussi un centre bancaire extrêmement important. Et ces amphores donc rhodiennes, dont j'ai voulu qu'on illustre un exemplaire au début du chapitre, c'est des amphores qu'on trouve dans de très vastes zones en fait de la Méditerranée. Et puis, il se trouve que la navigation est très facile entre Rhodes, en tout cas dans le sens nord-sud, et Alexandrie, qui est la principale ville du monde hellénistique, Alexandrie d'Égypte, hein, puisque Alexandre en a fondé une centaine d'autres. Donc, il y a véritablement un lien très très fort, politique également, entre les Rhodiens et puis les Ptolémées, hein, les souverains lagides. Et Alexandrie est également un centre extrêmement important de production, de redistribution, à la fois des produits qui viennent de l'arrière-pays, de la Corée égyptienne, du Delta, et puis des artisans alexandrins, bien le blé, le papyrus, etc., beaucoup de production. Donc là, il y a un axe qui est très important. Alors quant à Délos, Délos est une petite cité donc qui est bien connue, hein, au cœur des Cyclades, qui abrite le grand sanctuaire d'Apollon, hein, puisque c'est là qu'Artémis et Apollon sont supposés être nés. Et donc il y a un sanctuaire extrêmement important. Alors pendant longtemps, peut-être faute de documentation archéologique plus importante, les inscriptions qui ont été trouvées, les inventaires qui ont été trouvés par l'école française d'archéologie, l'école française d'Athènes, lors des grandes fouilles du XIXe siècle, ont donné à penser, par les tarifs de production, etc., la nature des importations, beaucoup de produits de luxe, de l'encens, etc., que Délos avait pu jouer un rôle extrêmement important de place de redistribution du commerce, au moins en Méditerranée centrale, enfin Méditerranée orientale, en mer Égée. Alors c'est discuté. Et puis alors il y a, à partir de la conquête romaine, hein, et de des combats qui ont lieu dans la zone séleucide, il y a ces informations qu'on a, alors par des sources littéraires, notamment par Strabon, qui disent que c'est à Délos que se trouve le principal marché d'esclaves du monde grec. Alors on sait qu'il y en a beaucoup des marchés d'esclaves, il y en a partout, il y en a à Éphèse, il y en a à Tricala, en Thessalie, enfin il y en a dans la plupart des cités, puisque l'esclavage marchandise perdure évidemment à l'époque hellénistique. Alors il y a toute une série de questions archéologiques qui se posent, parce que l'île est minuscule, alors si c'était un port où on débarquait et où on rembarquait des esclaves, où est-ce qu'on mettait les esclaves? Alors, il y a beaucoup de discussions à ce sujet. Je pense que Véronique Chankowski a trouvé des arguments tout à fait intéressants, et d'autres savants, hein, en montrant finalement peut-être qu'il n'était pas nécessaire de débarquer ces esclaves pour que les transactions aient lieu. Parce qu'il y avait énormément d'Italiens qui s'étaient installés là. C'était vraiment un monde cosmopolite de gens qui faisaient beaucoup d'opérations bancaires, beaucoup de commerce.
Christophe Chandezon.
Pour prolonger un peu cet aspect-là de la discussion, quand on aborde cette question du commerce, on peut effectivement, et c'est ce qu'on est en train de faire, revenir à une échelle macro plutôt que micro. Elle est importante et peut-être, j'ai envie de dire, ça n'engage que moi, hein, Catherine, tu me contrediras si tu n'es pas d'accord, que ce commerce peut être pensé aussi en termes de flux et voir quel est le chemin que ces flux prennent. Et la haute époque hellénistique, c'est-à-dire le 3e siècle, est héritière de l'époque précédente à travers des flux qui ont plutôt une orientation du nord vers le sud, du sud vers le nord. Et quand on traverse la mer Égée, l'époque classique voit ses flux plutôt suivre les rivages est de la péninsule balkanique. Le basculement qu'il y a au début de l'époque hellénistique est que ces flux restent bien nord-sud, sud-nord, mais que cette fois-ci, le basculement se fait du côté de la partie est de la mer Égée, le long de la côte actuelle de la Turquie. C'est vers 150 que ça se produit, mais c'est progressif, évidemment. Progressivement, à cause de la montée en puissance de l'Italie, les flux cessent d'être orientés de façon privilégiée du nord vers le sud, mais ont désormais une orientation est-ouest, ouest-est, à travers la Méditerranée. Un des avantages de Rhodes, justement, c'est d'être au carrefour de chacune de ces deux routes. Rhodes ne perd pas d'une certaine manière au changement d'orientation des flux. Et ça, on peut le voir. J'ai un de mes étudiants, si vous permettez de le nommer, récemment, il s'appelle Axel Noe, qui a soutenu une thèse de Network Studies. Vous savez, ces études autour des graphes, etc., qui montrent ça de façon assez claire à propos de Délos, ces grands basculements des flux.
Il nous reste peu de temps, hein. Le temps passe très vite en votre compagnie. Peut-être qu'on peut dire quand même quelques mots, Christophe Chandezon, du chapitre que vous avez rédigé. On a dit toute l'importance des campagnes, 5 siècles d'histoire des campagnes qu'on ne va pas faire en 180 secondes, mais presque. La question qu'on peut poser, c'est est-il possible de restituer les paysages ruraux du temps ? Alors ça, c'est magnifique, c'est une vraie question. Vous nous proposez 5 dossiers à des périodes différentes pour essayer quoi, de retrouver ces paysages. Est-ce que c'est possible ? Dites-nous.
Est-ce que c'est possible ? Je l'espère. J'espère aussi en avoir apporté la démonstration. Je suis parti en fait de l'idée que voir les campagnes de cette époque, mentalement, se les imaginer est quelque chose de difficile. De difficile même pour nous, les chercheurs. Je veux dire par là que lorsque vous pensez aux campagnes de la France, de la fin du Moyen-Âge, de l'époque moderne, on regarde nos villages et on a quand même l'impression d'en avoir un reflet déformé, mais un reflet tout de même. Tout le monde a en tête les tableaux, par exemple, de Teniers qui vont nous représenter des paysages de la campagne flamande. Mais j'ai peur que beaucoup de nos collègues, si on leur demandait de fermer les yeux et d'écrire à quoi ressemblait une ferme grecque, un village grec, il n'y ait aucune de ces références qui apparaissent spontanément. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire, recommençons par là, essayons de nous faire une image de cela.
Une des grandes questions aussi de ce chapitre, c'est à partir de quelle source, comment retrouver ces exploitations de taille moyenne et de plus petite taille, ces grandes propriétés, comment retrouver tous ces acteurs-là ? Est-ce qu'on a des sources importantes ? Alors, il y a un certain nombre d'images dans votre chapitre. Donc, on a des sources, comment les exploiter ? Expliquez-nous comment vous avez procédé.
Alors, c'est peut-être la partie la plus complexe, évidemment, de l'entreprise. Parce que, en soi, pour les époques qui nous intéressent, mis à part le cas de l'Égypte, d'une certaine manière, nous n'avons pas de source qui émane directement de ces sociétés rurales que j'ai souhaité étudier. Nous en avons en fait des représentations qui sont des stéréotypes venus de membres des élites vivant en ville. Donc, il faut faire évidemment une opération de retournement intellectuel des documents pour comprendre comment on peut les aborder. Mais j'ai aussi essayé de montrer, par exemple, qu'à travers les stèles funéraires, alors plutôt de l'époque impériale, on peut parfois avoir des phénomènes d'autoreprésentation de ces habitants des campagnes qui émergent. Et j'ai reproduit plusieurs de ces stèles funéraires. Alors, elles sont modestes. Si on les jugeait esthétiquement, on les aurait pas fait figurer dans ce volume, mais qui nous donne un peu une image, oui, de la façon dont ces gens-là se voyaient.
Alors, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. Peut-être quelques mots de conclusion avec vous, par exemple, Catherine Grandjean. Quel est votre espoir pour ce livre ? Il s'adresse à qui ? Quel est votre public un peu rêvé, imaginé ? Dites-nous. Des enseignants du secondaire, des curieux,
enfin voilà. Bien sûr.
Le maximum
des,
de gens possible.
Des étudiants aussi.
C'est pour vos étudiants aussi que vous avez écrit.
Ah, bien sûr, parce qu'on voit qu'ils ont de plus en plus de difficultés à lire les nouvelles Clio, à lire les peuples et civilisations, etc. Il y a besoin de davantage, en fait,
d'images, de cartes,
cartes, d'encadrer, etc. Je voulais revenir aussi, et Christophe complétera, sur le legs, finalement, de cette période, qui est quand même extrêmement important. Il serait dommage de la laisser un petit peu dans l'ombre, d'autant que le dynamisme de nos études dans ce domaine est quand même, notamment en France, tout à fait remarquable. C'est une période où la notion de monarchie absolue et son caractère presque sacramentel est mise en forme. On voit un souverain comme Pyrrhus, par exemple, qui guérit des maladies, les vergétismes royales aussi, tout ça. Enfin, il y a toute une série de traits qui ont été légués via les Romains à notre époque. C'est une période aussi où sont mis en forme les textes de la tradition classique, notamment à Alexandrie, sous l'autorité des souverains. Tout notre droit maritime international, notamment la notion d'eau internationale, c'est le droit maritime rhodien, mais c'est une période d'une richesse presque infinie, sans parler des découvertes scientifiques qui ont été réalisées à Alexandrie via, il faut bien le dire, parfois des vivisections. C'est la première fois qu'on s'est intéressé à vraiment à l'anatomie féminine. La statuaire montre aussi, la statuaire hellénistique, un très grand sens de l'humain, de la souffrance humaine, de la précarité également de l'existence. C'est une période absolument passionnante et très proche de nous.
Alors Christophe Chandezon, je vous donne la parole tout de suite, mais ces ponts avec le monde contemporain, ils sont faits aussi dans votre livre. Il y a par exemple, je ne sais pas, il y a une très belle photographie d'Elizabeth Taylor, en Cléopâtre par exemple, on trouve ça aussi dans votre livre.
Alors c'est une contemporanéité, j'espère que j'ai bien prononcé le mot, qui à propos d'Elizabeth Taylor est toute relative. Nous parlons en plus que quinquagénaire ici quand nous disons cela. Mais oui, effectivement, ces ponts sont faits inévitablement, permettent de s'adresser au public et permettent de rappeler qu'en tant qu'historien, nous sommes les enfants de notre propre temps. Bien évidemment, et pas seulement les porte-paroles des époques dont nous parlons dans nos ouvrages.
Très bien, la conclusion reviendrait presque à Nicole Leroux, on parle toujours du passé, depuis le feu, du présent. Merci beaucoup à tous les deux. Et c'est ainsi que se termine le 185e numéro de Nos Chemins d'Histoire, le 26e de la 5e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Catherine Grandjean et de Christophe Chandezon, co-auteurs d'un ouvrage passionnant, vous l'aurez compris, un livre paru chez Belin et intitulé « La Grèce hellénistique et romaine » d'Alexandre à Adrien, 336 avant notre ère, 138 de notre ère. Toutes nos émissions sont disponibles sur les plateformes de podcast et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.